We'll be right back. To the parliamentary dimension of the Portuguese presidency of the Council of the EU. Here are a few tips on how to take the floor using Interatio's video conference platform. When your name is called by the chair, press the raise hand button and wait. The moderators will unlock your microphone and the speak button will begin to glow blue. Press it to begin speaking. The speak button will turn red.
You are now live and transmitting. While speaking, please take note of the timer shown on the chair's video stream. Once you have concluded speaking, press the speak button again.
Remember, proper interpretation requires a clear, interference-free speech transmission. Be sure to use a headset with a built-in microphone if one is available. Wired connections are also recommended. If you experience any technical difficulties, ask for help in chat or contact our technical support staff either by phone or through WhatsApp. We hope you enjoy today's meeting.
Good morning, dear Commissioner, dear colleagues. Vamos iniciar a nossa reunião. Queria.
Chers collègues, je voudrais saluer tout le monde, remercier tout particulièrement Madame la Commissaire Stella Kyriakides. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui, hélas, domine l'activité politique qui affecte nos vies et notre avenir. C'est un plaisir de vous accueillir ici, même si nous sommes à distance. Je vais dès à présent ouvrir ce débat en vous rappelant les règles en vigueur. Je donnerai tout d'abord la parole à Madame la Commissaire qui disposera de 10 minutes pour présenter le sujet de notre rencontre. Après cela, je donnerai la parole aux députés par un groupe de 6 députés. Chaque député dans chaque groupe de 6 disposera d'une minute et demie pour intervenir et Madame la Commissaire disposera de 3 minutes pour répondre. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je vous invite à faire preuve de discipline parce que notre réunion est limitée en termes de temps. Nous avons droit à 1 heure. Vous avez très certainement assisté à la petite vidéo concernant l'équipement et les consignes pour prendre la parole. Appuyez sur le bouton « Lever la main », puis une fois que la petite lumière bleue s'allume, vous pouvez appuyer sur le micro. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne réunion et je donne dès à présent la parole à Madame Kyriakides, à qui j'adresse tous nos remerciements pour sa présence aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes et représentant des parlements des États membres de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être aujourd'hui ici. Les parlements européens, le Parlement européen et les États membres sont nos partenaires les plus précieux dans la lutte contre la COVID-19 et pour garantir un avenir en bonne santé. Je voudrais ici partager quelques vues sur ce qui nous attend. La présidence portugaise a adopté une approche pour une Europe plus résiliente en laquelle les citoyens ont confiance et qui soit une championne de la solidarité. C'est un appel que je lance aux membres de la COSOC. Être plus solidaire. Il est très important de faire un front solidaire pour lutter contre la COVID-19. Un front solidaire, c'est ce qui caractérise notre stratégie de vaccination dans la mise au point et le déploiement de vaccins sûrs et abordables. Nous devons en parallèle augmenter les travaux au sein de l'industrie pour faire face aux nouveaux variants du virus. Nous faisons faire en sorte que le marché unique continue de fonctionner et faire preuve de solidarité internationale dans le cadre du dispositif Équipe Europe. Parce qu'il faut être clair, personne ne sera en sécurité si Tout le monde n'est pas en sécurité. La COVID ne connaît pas de frontières. C'est pour cela que nous devons faire preuve de solidarité. Et c'est précisément ce que nous recherchons. Notre stratégie va doter l'Union européenne d'un ensemble d'outils pour mieux être mieux préparée, pour mieux contrôler, évaluer les risques et apporter des réponses en temps opportun. La législation va nous permettre d'agir, de soutenir les États membres face aux menaces qui peuvent surgir. En bref, notre stratégie va nous permettre de faire plus pour nos citoyens. Nos deux agences européennes, le Centre européen de prévention et contrôle des maladies et l'Agence européenne des médicaments, ont été cruciales dans la lutte contre cette pandémie. Et à l'avenir, nous devons les doter des moyens nécessaires pour qu'elles puissent jouer un rôle encore plus fort. Par ailleurs, nous envisageons de créer une nouvelle autorité de riposte aux menaces sanitaires, ERA. Et dans ce contexte, nous souhaitons mettre en place un programme qui nous permette de réagir rapidement aux variants du coronavirus. Nous allons lancer donc un programme, un partenariat public-privé pour un développement de vaccins et trouver des solutions donc pour lutter contre les variants. Il nous faut agir dès à présent avant que la menace des variants rende la pandémie ingérable et anéantisse nos investissements actuels dans les vaccins. Cet investissement peut se manifester de différentes manières, à différents stades, et doit autant au niveau de la mise au point des vaccins, mais aussi de la production, de manière à garantir la quantité de vaccins mis à disposition sur le marché. Notre projet dans le domaine de la santé est ambitieux et exige une forte coopération entre les institutions européennes. Le programme santé de l'Union européenne va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans la politique de santé de l'Union européenne. EU for Health va investir plus de 5 milliards d'euros dans la santé des citoyens. Il va permettre de renforcer nos systèmes de santé et de faire face à de futures crises sanitaires. Mais surtout, cela va être un bouclier de santé publique et va contribuer à notre union de la santé, par exemple dans le domaine de du cancer. Notre plan de lutte contre le cancer a été présenté la semaine dernière. Nous savons que les défis humains, économiques, sociaux du cancer sont énormes et font peser des défis sans précédent sur les autorités sanitaires des États membres. Notre plan va permettre de lutter contre les inégalités entre les États membres, de la prévention au dépistage, à la détection précoce, au traitement, à la qualité de vie des patients et des survivants. La formation également des professionnels de santé va être envisagée, ainsi que les investissements dans la recherche et l'innovation. Enfin, nous allons mettre en œuvre les leçons tirées de la COVID-19 pour mieux garantir la protection des groupes vulnérables. Nous avons également présenté une stratégie pharmaceutique pour l'UE qui va nous permettre de rendre notre système pharmaceutique plus résilient, aussi bien au niveau de la mise au point que de la production des médicaments. Et cela inclut une réforme de la législation pharmaceutique de l'Union européenne, y compris la législation relative au traitement pour les enfants porteurs de maladies rares. Nous allons également lutter contre les pénuries de médicaments, faire en sorte qu'ils deviennent plus abordables pour tout le monde et d'accroître notre compétitivité au niveau mondial. Voilà, mesdames et messieurs, notre vision pour une Europe en meilleure santé, une Europe plus résiliente, une vision qui, je l'espère, hein, pourra être mise en œuvre grâce à nos efforts de solidarité. L'Europe a été durement frappée par la pandémie et je vous invite donc à vous mobiliser dans cette stratégie de manière à ce que l'Europe tout entière puisse bénéficier de ce front pour la santé, faire en sorte que les citoyens puissent faire entendre leur voix et qu'ils puissent retirer les bénéfices de notre stratégie. En travaillant tous ensemble, nous pouvons sortir de cette crise plus forts, plus unis et assurément mieux préparés pour l'avenir. Et maintenant, je suis ravie d'entendre vos interventions. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette rencontre. Merci. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, pour cette présentation objective et succincte. Je vais tout de suite donner la parole aux collègues présidents des commissions des affaires européennes. Et dès à présent, la parole est à Sabine Tillay de l'Assemblée nationale française. Sabine.
Allô, Sabine?
Sabine, vous nous entendez? Sabine Tillay pour l'Assemblée nationale française.
Vous m'entendez? Bon, il y a un
Oui,
problème.
Sabine.
Vous m'entendez?
Madame, nous vous entendons.
Monsieur le Président, Madame la Commissaire, les bases juridiques liées à la politique de santé sont éparses dans les traités. Est-ce que les États membres n'auraient pas tout intérêt à les réunir, expliciter afin d'atteindre aussi une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité. Et un autre sujet que je trouve un peu préoccupant, c'est la méthode de collecte des données qui varie selon les États membres et qui rend moins précises les estimations du Centre européen de prévention et de contrôle de maladies. Je vous remercie.
Muito obrigado, Sabine. Dou de imediato a palavra à colega Susana Sumelzo.
Merci beaucoup, Sabine. La parole est à Susana Sumelzo pour l'Espagne, Cortes Generales. Merci. Nous soutenons l'Union européenne de la santé et nous pensons nous aussi que nous devons vraiment tirer les leçons de la crise actuelle pour les crises futures, de manière à ce qu'on puisse mieux faire face aux crises sanitaires qui pourraient survenir à l'avenir. Il est évident que si nous travaillons ensemble, nous serons plus forts au niveau de l'Union européenne. Et les problèmes que nous traversons aujourd'hui vont être surmontés, c'est sûr. Il faut néanmoins éviter la course au vaccin à laquelle on assiste. Aujourd'hui, nous soutenons pleinement l'achat au niveau communautaire des vaccins et espérons que les contrats vont être respectés. Merci. Maintenant, la parole à Pascal Canfin, président de la commission Envie.
Rappeler en quelques secondes la position du Parlement européen depuis le début de cette crise. Elle repose sur deux piliers. Premier pilier, le soutien au cadre européen. Stella Kyriakides le sait bien, nous avons soutenu depuis le début un modèle intégré de négociation, car imaginez ce que ça voudrait dire, 27 contrats différents, 27 conditions d'accès différentes, 27 prix différents entre nous. Ce serait encore pire que la situation actuelle, bien évidemment. Le deuxième élément, c'est que nous demandons plus de transparence sur les contrats et maintenant plus de transparence sur les doses que nous devons voir arriver mois par mois, pays par pays. Je crois que c'est quelque chose que nous devons à nos citoyens dans un cadre démocratique et nous le devons aussi pour avoir un débat informé, basé sur les faits entre nous et pas basé sur les rumeurs ou sur les complotistes. Encore une fois, le Parlement européen soutient l'action de la Commission européenne, mais demande depuis le début plus de transparence sur les différents contrats et les données. Et je crois que c'est la même chose pour les États membres, puisqu'une partie de ces données sont dans les mains des États membres. Il faut qu'ils les rendent publiques. Dernier point dans les 10 secondes qui me restent. L'attention maintenant, c'est de produire plus. Produire plus. C'est pour ça que nous sommes ravis de voir que d'autres commissaires, notamment Thierry Breton, sont maintenant à la manœuvre pour nous aider à produire plus de vaccins dans l'Union européenne. Merci.
Muito obrigado, Pascal. Dou de seguida a palavra ao colega da Assembleia Nacional da Croácia,
Et je donne, merci Pascal, je donne tout de suite la parole à notre collègue Domagoj Hajduković, Assemblée nationale croate. Domagoj, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton parler pour prendre la parole. Je crois que on n'arrive pas à établir la communication, donc je donnerai la parole à l'intervenant suivant en attendant que la Croatie se reconnecte. Tomas Valacek du Conseil national slovaque. L'intervenant n'a pas de micro. S'il vous plaît, allumez votre micro, dit le président Kapula Santos. L'intervenant slovaque n'a pas ouvert son micro. Bien, je suis désolée, il semblerait qu'on ait des problèmes de communication. Et donc, en attendant qu'on arrive à surmonter ces difficultés, je vais donner la parole à Dario Stefano du Sénat italien. Merci, Président, et bonjour à tous. Nous sommes conscient que l'Union européenne a des compétences limitées en termes de santé, mais nous considérons que l'action commune mise en place par l'Union européenne mérite notre soutien plein et entier. Nous pensons qu'il est nécessaire de contrer cette maladie, la campagne de vaccination à grande échelle au niveau de la population de l'Union européenne dans tous les États membres est d'une importance symbolique capitale. Nous devons travailler tous ensemble. C'est néanmoins une campagne très difficile à mettre en place parce que le temps joue contre nous. Nous courons contre le temps et beaucoup de questions se posent. Nos citoyens nous interrogent sur les retards sur les quantités de doses qui sont livrées, s'il nous interroge sur la transparence des contrats. Il nous faut des réponses à tout cela. Nous devons pouvoir leur fournir des réponses et il faut agir dans ce sens, apporter des réponses, apporter également des solutions par rapport aux retards de livraison qui peuvent avoir des conséquences terribles sur notre économie. Chaque semaine de retard fait que l'on perd du terrain au niveau économique. Chaque semaine de retard veut dire aussi une semaine où on perd du travail. Donc il faut vraiment agir vraiment vite. Merci. Merci.
Estou certo que todos nós estamos a dar.
Merci beaucoup, Dario. Je suis sûr que nous sommes tous en train de donner, effectivement, de faire notre meilleur. Je vais essayer maintenant d'établir la connexion avec la Slovaquie en passant donc la parole à Thomas Valazek. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez maintenant. Alors, deux points et une question. Alors, tout d'abord, remercier Madame la Commissaire pour tous ses efforts, notamment avec notre pays, avec cette dimension de pouvoir faire ces achats, notamment ensemble, et de répondre aux problèmes que nous avons déjà mentionnés. Donc, nous sommes particulièrement satisfaits par rapport à cette question. Cependant, deux questions qui se posent, Madame la Commissaire. Ici en Slovaquie, alors nous avons parlé de l'effort d'un partenariat privé et public avec les vaccins en Europe. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est effectivement une des leçons apprises. Mais quel est le plan? Quels sont les détails? Est-ce que nous allons augmenter les capacités actuelles dans chacun des États membres? Est-ce que l'idée est de lancer donc une nouvelle facilité de production? Est-ce que nous souhaitons augmenter la production? Qui est-ce qui prend ces décisions pour cela? Donc je sais que nous n'avons pas beaucoup de détails, mais peut-être, Madame la Commissaire, vous seriez en mesure de nous donner d'autres informations à ce sujet. Dernière question, je ne sais pas, mais dites-moi qui est la personne indiquée pour répondre à ces questions. Quel est le calendrier pour l'approbation du vaccin russe, l'approbation du vaccin russe? Nous savons que nous souhaitons avoir le plus grand nombre disponible de vaccins, mais je répète, quand est-ce que nous allons avoir cette approbation ou certification de la part de l'EMA en ce qui concerne cette Sputnik? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Madame la Commissaire. Je sais que c'est une tâche particulièrement difficile de pouvoir répondre à toutes ces questions en 3 minutes, mais je vous passe donc la parole, Madame. Oui, merci beaucoup et merci aux mes collègues. Je vais essayer d'être très succincte. Alors, en ce qui concerne la question de la santé européenne, nous sommes en train de travailler dans les limites qui font partie effectivement de notre programme. Ceci doit être très clair. Ceci veut dire que ce que nous proposons se penche sur les responsabilités de chacun des États membres, de toutes les politiques de la santé, et également pour la prestation de services de santé. Et une partie de nos propositions est de renforcer les agences CDC dans ce cas et de pouvoir avoir une meilleure préparation pour faire face à cette crise. Il est important également de renforcer ce point. Ce que nous entendons de nos citoyens, c'est que ceux-ci souhaitent avoir plus de l'Union européenne en termes de santé, et donc de pouvoir prêter ce service que les citoyens s'attendent. Alors, j'ai entendu très attentivement Ce que Pascal Rapin vient de dire, nous sommes tout à fait conscients de la transparence nécessaire. Et ce que je souhaite dire, c'est le suivant. Alors, quelle est la transparence des contrats? Nous avons déjà publié deux de ces contrats et dans les deux prochaines journées, nous allons travailler pour publier un troisième contrat qui a été célébré. Une autre question également posée par M. Canfin. Nous avons des données par rapport aux États membres. À moins que nous ayons effectivement ces données, nous ne serons pas en mesure d'accompagner et d'être aussi efficaces. Et donc, nous allons essayer d'avoir tout un groupe de contacts entre le Parlement et la Commission également, d'avoir des perspectives sur le vaccin. Et c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons en ce moment. Alors, nous travaillons avec les entreprises aussi, pour vérifier si les contrats sont appliqués ou pas, donc l'augmentation de production notamment. Je pense qu'il est également très important, et ici, permettez-moi, dans les 30 secondes qui me restent, normalement, on demande 10 ans pour développer un vaccin. Et là, nous avons été plus rapides. Nous avons investi énormément sur la recherche tout au début de la pandémie. Et en tant que commission, avec les États membres, ceci doit être très clair. Dans toutes les phases de négociation, eh bien, nous avons été capables de faire et de travailler avec le comité de pilotage. Il y a eu donc une équipe d'appréciation avec un nombre réduit d'États membres pour que chacun des aspects des contrats avec les États membres et la Commission, soit toujours respecté et informé. Donc, c'est la façon que nous allons continuer à travailler dans l'avenir. Je pense que celle-ci fut la meilleure façon de travailler ensemble, une Europe unie, solidaire. Et si jamais un État membre n'aurait pas accès à ces vaccins, nous aurions effectivement des citoyens qui ne seraient pas qui n'auraient pas donc cette égalité en termes d'accès aux vaccins. Nous avons eu des problèmes de production, certes, mais nous travaillons actuellement avec le commissaire Bertrand également pour pouvoir répondre à ce problème. Alors, par ailleurs, la question du vaccin Sputnik, le vaccin russe, je reçois des appels de l'Agence de la Santé, des contacts avec des scientifiques également russes. Et nous n'avons pas encore eu une candidature officielle pour Sputnik. Une fois que cette candidature sera obtenue pour Sputnik, nous allons évidemment analyser toutes les données et essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et à ce moment-là, nous allons prendre des décisions. Je souhaiterais également souligner ici que, en ce qui concerne les mains et toutes ces données, eh bien, tout d'abord, nous devons toujours penser au niveau de la sécurité de ces vaccins. Je pense que c'est une situation que nous sommes en train maintenant de vacciner des populations avec un nouveau vaccin. Donc, nous ne pouvons pas ici sauter des étapes de sécurité. Donc, pour chaque vaccin, nous allons avoir exactement les mêmes niveaux de contrôle pour que les citoyens sachent que les vaccins qu'ils sont en train de prendre sont effectivement très sûrs. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Je n'ai pas osé vous interrompre, étant donné que vos réponses sont si importantes. Très bien, nous allons donc maintenant passer à une deuxième partie d'intervention. Je vais passer la parole à Jean-François Rapin, du Sénat français, et suivi par Joe McHugh, du Parlement irlandais. Jean-François, je vous passe la parole.
Allô, Jean-François?
François, est-ce que vous m'entendez? Allez-y.
Vous avez la parole.
Merci Louis. Un petit message amical pour la situation que tu vis dans ton pays actuellement de la part du Sénat français. Madame la commissaire, merci de toutes les explications que vous nous avez portées. Vous avez déjà répondu à quelques questions que je souhaitais vous poser. Simplement, j'ajouterais que sur l'Europe de la santé qui s'impose à nous aujourd'hui au regard de la situation, il faudra avoir des clarifications effectivement en termes de compétences. Ce sont les questions qui reviennent aujourd'hui le plus, en tout cas au Parlement, et peut-être une implication des parlements nationaux sera importante au moment de ces échanges. On a parlé tout à l'heure des marchés de vaccins. Moi, j'aimerais évoquer le sujet d'un élément qui court et sur lequel nous n'avons pas de réponse, c'est sur les commandes qui ont été faites de Remdesivir. Est-ce que l'Europe a commandé du Remdesivir à hauteur, dit-on, d'un milliard d'euros, avec des incertitudes quant à son efficacité encore aujourd'hui? Et puis, bien sûr, la transparence a été évoquée notamment par Pascal Canfin, la transparence sur tous les éléments qui ont été portés à notre connaissance sur les marchés de vaccins. Il est important de savoir si les règles des marchés publics ont été respectées. Dernier point, et j'ajouterai cette remarque par rapport aux pays qui commencent à commander Spoutnik. C'est important de savoir assez vite comment l'Union européenne abordera cette question. Et puis, Madame la Commissaire, je profite de cette occasion pour vous renouveler l'invitation que le Sénat français vous fait de vouloir vous exprimer, s'il vous plaît, devant la Commission des affaires européennes, bien sûr, et la Commission des affaires sociales du Sénat français. Je vous remercie.
Muito obrigado, Jean-François. Muito obrigado pelas tuas.
Merci beaucoup, Jean-François, pour tes paroles. Et je passe maintenant la parole à Joe McHugh de l'Irlande, suivi par Gunther Krischbaum du Bundestag. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Alors, un sujet que je souhaiterais souligner sont nos obligations internationales. Savoir effectivement quelles sont les conversations qui seront prises par rapport à l'implication des organisations non gouvernementales et également en ce qui concerne les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus fragilisés. En deuxième lieu, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'il y a un plan pour traiter cette question de la vaccination des travailleurs, de ceux qui sont dans des conditions particulièrement vulnérables et qui travaillent donc avec des communautés, elles aussi, vulnérables dans le monde entier? Donc, nous sommes surtout concentrés ici, au niveau de l'Union européenne, de faire face aux défis globaux comme la migration, par exemple, les questions liées au changement climatique et autres. Et évidemment, nous allons essayer de notre côté de pouvoir éviter les problèmes avant de devenir un problème. Donc, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'Union européenne pour justement faire en sorte qu'il y ait cette justice au niveau mondial pour les vaccins? Et je vous remercie, Madame la Commissaire, pour tout le travail développé jusqu'à présent. Merci beaucoup, Joe. Je passe la parole à Gunther Krischbaum, suivi ensuite par Boleslav Piesza du Parlement polac. Allez-y.
Non, está fácil a comunicação com o Bundestag.
Apparemment, problème de communication avec le Bundestag. Et pendant ce temps-là, peut-être pourrions-nous passer maintenant à Boleslav Piesza du Parlement polonais. Allez-y. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Commissaire. Eh bien, la pandémie nous a montré que les efforts menés à bien pour répondre à la pandémie, notamment pour la santé et l'avenir, doivent être tout coordonnés. Et tous nos efforts doivent être effectivement coordonnés avec tout un engagement. et minimisant les effets sur l'économie. Donc, prendre en considération les comités futurs pour répondre avec des dispositions médicales et également répondre, avoir plus de compétences pour ces dispositions, ces instruments de coordination qui existent déjà. Alors, pour cette coordination, nous appelons également au besoin d'avoir donc un plan de préparation de façon à pouvoir garantir la santé dans les États membres et des actions transfrontalières à travers une coopération plus élargie. Et il est également important que l'Union européenne puisse continuer à agir tout en coordonnant les politiques nationales. Donc nous sommes ouverts effectivement à ce débat. Et en ce qui concerne les compétences de chaque État membre, il serait également important de pouvoir avoir des actions qui soient flexibles en termes de solidarité, de l'aide sociale, c'est-à-dire plus d'actions et moins de bureaucratie. Merci beaucoup. Merci à vous, Oslav. Je ne sais pas si nous sommes en mesure maintenant de connecter, non, avec le Bundestag, ce n'est pas le cas. Donc je passe la parole à Vita Anda Teroda de l'Assemblée nationale de la Lettonie. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Alors, du point de vue de cette question, nous voyons qu'effectivement l'Union européenne a été en mesure de répondre. Alors, une réponse de l'Union européenne, donc unie, est beaucoup plus efficace si effectivement nous serions tout seuls, les uns isolés. Et donc, dans cet ensemble et dans cette action unie, eh bien, nous pouvons garantir de meilleurs résultats. Nous avons vu également qu'il y a eu un manque de coordination au débat, donc sur la libre circulation de personnes, etc. Et une meilleure coordination, maintenant nous sommes en mesure d'y répondre. Alors, avec le programme de vaccination, en rétrospective, nous pouvons voir que nous souhaitons avoir effectivement de voir quelles sont l'efficacité et également fournir tous ces produits. Alors, cette rétrospective nous permet de voir les choses de façon plus claire. Donc, ma première question, qu'est-ce que ces leçons apprises jusqu'à présent peuvent faire pour l'action européenne et pour l'avenir? Donc, très spécifiquement, je souhaiterais savoir, Madame la Commissaire, vous avez parlé de l'augmentation des tests, de l'accompagnement également des nouvelles variantes, parce que ces nouvelles variantes vont encore constituer d'autres défis et vont exiger de notre part plus de vaccins, plus de travail, plus de fournissements. Donc, seriez-vous capable et en mesure de nous dire qu'est-ce que la Commission prévoit pour ce domaine? Merci beaucoup. Nous allons passer la parole maintenant à Gaëtan van Goyds-Senhoven du Sénat belge. Gaëtan, allez-y.
Merci, Président, Madame la Commissaire européenne. La pandémie a mis en évidence la nécessité pour nous, États membres et l'Union européenne, de renforcer davantage notre coordination et notre coopération. Finalement, cette crise, comme d'autres dans l'histoire, nous rappelle que la solidarité européenne doit rester au cœur de notre action. Nous avons par ailleurs constaté à quel point notre santé publique dépendait de biens et de services qui proviennent de pays tiers. Cela nous a freinés dans notre réponse à la crise et la Commission a dès lors décidé de renforcer la résilience européenne. Il s'agit notamment de créer des stocks stratégiques communs d'urgence en équipements médicaux, de diversifier et de relocaliser les chaînes d'approvisionnement, mais aussi et surtout d'investir dans la recherche et le développement dans le secteur biomédical. À cet égard, la présidente von der Leyen a annoncé la création d'une agence de recherche et de développement biomédicaux avancés qui viendra renforcer l'Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et qui visera à augmenter la capacité de l'Europe à faire face aux menaces sanitaires transfrontalières. Où en est-on dans cette initiative? En sait-on plus à ce stade sur les moyens humains et financiers qui seront mis à disposition de cette nouvelle agence? Je vous remercie.
Muito obrigado a todos.
Merci, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci également pour cette discipline en termes d'horaire. Et je passe maintenant la parole à Madame la Commissaire pour répondre à cet ensemble de questions.
Thanks again for the questions.
Je vous remercie de vos questions et d'avoir tâché d'être aussi rapide que possible. Concernant Redemptivir, via l'instrument d'aide d'urgence, nous avons réussi à garantir l'approvisionnement et passer des accords pour que les États membres puissent passer commande. Concernant EU for Health, bien sûr, le Parlement européen va être mis à contribution dans le cadre du processus législatif européen. Je souligne encore une fois que tout ce que nous proposons respecte les compétences qui nous sont confiées par les traités et les compétences des États membres, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que nous devons travailler ensemble sur certains fronts. C'est en tout cas les leçons de ce que nous avons vécu les derniers mois qui nous poussent à cela. Bien sûr, concernant les variants, il va nous falloir très certainement continuer à travailler sur le développement des vaccins. Avec le CDC au cours des derniers médicaux. Dans le cadre de l'Union européenne de la santé, nous allons, avec les agences, effectuer un recensement des réserves d'appareils. Concernant la hausse des tests et du séquençage, nous accompagnons cela avec le CDC de très près. Tous les États membres n'ont pas la même capacité à ce sujet et le CDC fournit une aide maintenant aux États membres sur leur demande et nous sommes en contact aussi avec des laboratoires pour que ces derniers aident les États membres qui n'ont pas assez de capacité de tests. Si nous ne disposons pas d'un autre côté les données des États membres, il nous sera très difficile d'aider les États membres. Par ailleurs, avec cette nouvelle agence concernant les biomédicaments, eh bien, nous travaillons étroitement avec cette agence pour justement voir comment développer les vaccins qui permettront de lutter contre les nouveaux variants de la COVID. Il est clair que, bien sûr, on aurait pu mieux travailler dès le début de cette crise. Mais je tiens à rappeler ici que les industriels doivent respecter les termes des contrats que nous avons signés avec eux. Il est évident que sans ces contrats et les investissements que l'Union européenne a faits, nous ne serions pas parvenus à un déploiement aussi. Qu'elles jouent un rôle plus actif dans la protection de leur santé. Et pour ce faire, il nous faut une action mieux coordonnée entre États membres avec un cadre clair au niveau européen. Les failles dans le système européen de lutte contre les menaces transfrontalières exigent une amélioration du système, et ce, au-delà de la pandémie actuelle. Nous Nous sommes disposés à travailler avec vous pour préparer le retour à la norme. européenne, mais les parlements européens, des États européens doivent être mis au courant et afin de comprendre et de pouvoir communiquer sur cet objectif de 70% des adultes vaccinés d'ici l'été. Il faut que la population européenne puisse savoir à quoi s'en tenir. C'est une question vitale pour ramener la confiance au sein de notre société. Merci. Merci Guido. Cela a été un plaisir de t'entendre. Et dès à présent, je donne la parole à Radvile, qui sera suivi de Marietta Giannakou pour la Grèce. Radvila. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, chers collègues, la COVID-19 nous a fait prendre conscience de l'importance de l'appartenance à l'Union européenne et la réponse rapide que l'Union européenne a réussi à donner est un moteur de confiance. Notre préoccupation concerne l'approvisionnement des vaccins. Les retards qui ont été pris en termes de livraison, la remise en cause des contrats par les industriels suscite beaucoup d'inquiétudes. Et quoi que soient les décisions prises par la Commission, je crois que nous devons tous soutenir l'action de la Commission, notamment les actions en vue de faire respecter les contrats. Concernant la campagne de vaccination, je crois que les autorisations doivent avant tout être accordées aux vaccins dans lesquels l'Union européenne a investi. C'est vrai que la demande en vaccin est très importante, mais il faut quand même tenir compte de tous les facteurs nécessaires, notamment en ce qui concerne des vaccins comme Sputnik V. Merci beaucoup, Radvila. Et maintenant, la parole est à Marietta Giannakou, qui sera suivie de Anne Kalmari pour le Parlement finlandais. Monsieur le Président, commissaire Kyriakides, chers amis, la pandémie montre combien il est important de poursuivre les investissements dans la santé pour lutter contre la crise. Le secteur de la santé, du fait de l'économie qui nous a frappés au cours de la dernière décennie, a beaucoup souffert. Nous sommes ici confrontés pas seulement à un problème européen, mais aussi international. L'investissement dans la santé consiste aussi à renforcer notre capacité à faire face aux chocs et aux crises à venir. Et ici, notre premier objectif doit être la vaccination pour permettre à nos économies de repartir. Quels sont les outils et les plans au niveau européen pour faire face aux chocs à venir? Merci. Merci beaucoup, Marietta. Et sans plus tarder, je donne la parole à Anne Kalmari du Parlement finlandais, qui sera suivie de Ria Omenruten des Pays-Bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je soutiens ce que Madame la Commissaire a dit. Et je soutiens les initiatives qui ont été prises et qui sont envisagées. Le déploiement des vaccins a été très rapide et, malgré la rapidité, réalisé en toute sécurité. Ce qui fait que les citoyens aujourd'hui acceptent de prendre le vaccin. Maintenant, concernant notre avenir, je pense qu'il y a d'autres aspects qui ne doivent pas être oubliés. En Finlande, par exemple, nous sommes préoccupés aussi par les résidus dans les aliments, pesticides et ainsi de suite. Et je pense que d'autres pays devraient s'en préoccuper. Nos fermes, nos élevages au sein de notre pays sont relativement petits et ce qui nous protège un peu contre les maladies animales. Ce qui fait que l'usage d'antibiotiques est limité et nous n'en n'utilisons plus dans la chaîne d'approvisionnement des élevages. Je pense que les autres pays européens devraient s'engager dans la même voie. Merci beaucoup, Anne. Et maintenant, la parole est à Ria Oomen-Ruijten. Un plaisir de te donner la parole. C'est aussi un plaisir de vous revoir, de te revoir et de voir Stella. Je vais commencer par la chose suivante. Oui, je pense qu'il nous faut absolument une Union européenne plus étendue. Mais comment y parvenir? Il n'y a pas de base juridique pour ça. Et on le sait, le financement de la santé est essentiellement national. Premier point. Deuxième point, la nouvelle stratégie sur les médicaments, d'après ce que j'ai entendu, c'est que cette stratégie prévoit, outre la régulation des agences qui existent déjà, donc qu'elle prévoit l'augmentation des capacités de production via des partenariats publics-privés. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu? Et enfin, je voudrais saluer les efforts de la commissaire qui présente donc un nouveau projet concernant la lutte contre le cancer. Merci.
Merci beaucoup, Ria. Et je passe maintenant la parole à Madame la Commissaire pour cette tâche particulièrement difficile de répondre à toutes ces questions en 3 minutes. Merci, beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir tous mes amis. Alors, tout d'abord, pour la question de l'avenir et la préparation pour cet avenir, eh bien, nous l'avons déjà dit, nous sommes en train de travailler sur cette nouvelle agence pour les réponses pour l'avenir. Donc, avoir effectivement une structure et anticiper les différentes menaces dans l'avenir. Par exemple, aux États-Unis, ils ont fait les choses de façon différente et donc avec des accords de compensation. C'est ce que nous devons penser également ici. Pour ce qui est, et je vais maintenant essayer de regrouper un petit peu toutes les questions. En ce qui concerne les vaccins, nous avons demandé aux différentes industries pharmaceutiques d'être plus spécifiques par rapport au calendrier pour le déploiement de ces vaccins. Qu'est-ce qui va être effectivement disponible toutes les semaines aux États membres? Mais maintenant, ce sont les autorités des États membres et aux entreprises de le faire. Nous avons besoin de cette information pour obtenir cet effort. Et si nous pouvons faire quelque chose ensemble et répondre à des problèmes qui sont liés avec l'empêchement, par exemple, des livraisons. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, nous avons conclu un nouveau contrat avec BioNTech. 75 millions de doses jusqu'au deuxième trimestre de cette année. Cette semaine, AstraZeneca a commencé avec sa livraison aux États membres. AstraZeneca a aujourd'hui des vaccins qui sont distribués. Et en ce qui concerne les 70%, donc cette cible que nous avions jusque pour la population vaccinée, eh bien, c'est encore une cible qui peut être effectivement conclue. 400 millions de vaccins pendant le deuxième trimestre de 2021, 100 millions du premier trimestre, 300 millions lors du deuxième et 400 millions après pour donc les 100 plus 300 qui feront un total de 400. L'industrie Johnson également qui va demander son autorisation ce mois-ci et donc augmenter encore ce nombre de vaccins. Donc, avec ce que nous avons pour la stratégie du vaccin, les 70%, donc la cible de 70% de la population vaccinée peut être atteinte. Donc, je suis d'accord avec vous que nous devons toujours être plus clairs en ce qui concerne les chiffres pour que les citoyens le sachent et nous sommes en train de collaborer avec de façon très structurée pour donner cette information. Alors, pour la question de RIA, eh bien la question des cancers, c'est vrai que c'est encore 5 milliards et 1 milliard, notamment pour des projets pour le cancer, et 4 milliards, notamment ensuite pour d'autres projets pour l'Union européenne qui sont également prévus, par exemple avec Horizon. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, donc les OPP, eh bien, nous sommes en train de faire une analyse des mécanismes existants au niveau de l'Union européenne, une collaboration donc publique-privée pour l'agence ERA. Et donc ici, et je suis désolé que nous ne disposons pas de temps suffisant pour entrer dans les détails. Je comprends très bien ce besoin, cette anxiété également des citoyens européens pour que le vaccin soit déployé le plus rapidement possible. Nous sommes en train de travailler avec les pharmaceutiques et avec d'autres commissaires pour garantir que ceci se produise. Mais je veux vous rassurer que la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, avec BioNTech Pfizer, avec les problèmes initiaux. AstraZeneca, par exemple, aujourd'hui, avec des chiffres encore un montant très bas, mais qui fait la distribution dans les États membres, un contrat aujourd'hui, avec 75 millions de doses, qui sont très importantes également. Et donc, avec tous ces chiffres-là, nous parlons de 400 millions de doses, comme je vous l'ai dit, qui seront disponibles pour nos citoyens. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au dernier groupe. Nous avons un petit retard et nous allons récupérer ce retard. Je vais passer la parole tout d'abord à la vice-présidente du Parlement européen, qui est notre lien de liaison avec le Parlement, donc Roberta Metsola. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour les questions qui ont été posées et les actions prises au niveau de l'Union européenne. Donc, félicitations pour tous ces efforts et la façon comme l'Union européenne répond à cette pandémie. Alors, comme je l'ai dit, en dépit des difficultés, nous devons également féliciter de nos propres efforts et de nos succès. Avec un contrôle adéquat, nous allons avoir des vaccins sûrs dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui le fait. Donc notre union, cet effort conjoint parmi tous les États membres avec leur dimension économique, avoir accès aux vaccins en même temps et comprendre que nous sommes tous ensemble. Et la seule sortie, c'est effectivement d'être ensemble. Et par conséquent, nous devons toujours repenser aux risques, effectivement, au niveau des vaccins et des nationalismes. Donc, garantir, effectivement, qu'il y ait une réponse de ces contrats et que ces entreprises sont fiables. Nous ne devons pas permettre, par contre, avoir cette idée que nous sommes en train de regarder au sein de l'Union européenne. Non, nous le faisons d'une pandémie globale. Et beaucoup de choses qui ont été faites et d'autres encore. Et donc l'Union européenne doit être un exemple pour le monde entier. On voit la vitesse avec laquelle l'administration n'est pas celle que nous souhaiterions et de vacciner plus de personnes. Mais je souhaiterais donc poser la question sur le certificat des vaccins. Donc les États membres doivent également coopérer pour avoir une certification normalisée pour aider les économies également à avancer. Merci beaucoup. Merci à vous, Roberta. Je passe maintenant la parole à Hélénis Tavrou du Chypre. Chers collègues, Madame la commissaire Kyriakides, merci beaucoup. Alors, nous assistons avec cette pandémie à des énormes impacts, notamment pour l'Union de la santé européenne, non seulement pour faire face à cette crise, mais également prévenir d'autres crises dans l'avenir. Je souhaiterais vous poser la question suivante. On voit dans plusieurs pays qu'il y a différentes limitations également et des tranches d'âge. Quelle est la limite correcte? Quelle est la limite qui n'est pas correcte? Quel est le droit que chaque citoyen possède d'être vacciné? Deuxième question, comment est-ce que la Commission européenne souhaite analyser les effets secondaires des différents vaccins qui ont été approuvés en coopération et coordination avec l'Agence européenne du médicament? Responsabiliser également les pharmaceutiques pour ces effets secondaires? Et encore une autre question. Que pensez-vous du vaccin qui soit effectivement une demande pour pouvoir voyager? Ce peut être également une violation des droits de l'homme, non? Donc, pour les personnes les plus vulnérables qui ne seront pas en mesure de prendre les vaccins et qui souhaiteraient voyager. Dernière question, comment est-ce que la Commission européenne souhaite aborder la question des États membres pour ceux qui ont également conclu les accords bilatéraux? Merci avec les entreprises, merci. Merci beaucoup. Analka Juas, maintenant, de l'Hongrie. Merci beaucoup. Apparemment, un petit problème de communication. Oui, maintenant c'est bon. Alors, les défis économiques et sociaux sont un peu partout dans toute l'Europe. Donc, la coopération avec les États membres dans ce domaine, mais aussi, il est important de souligner que les compétences nationales doivent être respectées pour le combat à la pandémie du COVID-19. Donc, l'accord pour l'achat des vaccins a été extrêmement important pour les fabricants également de pouvoir respecter leurs engagements pour la production et la livraison. Alors, l'initiative elle-même, elle était importante, mais également important pour ceci d'avoir une réponse au niveau de la prévention pour les émergences également transfrontalières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aneka. Malheureusement, je ne pourrai pas donner la parole aux deux derniers collègues qui se sont enregistrés. Je sais que Madame la Commissaire a un engagement maintenant, tout de suite après cette réunion. Et donc, je lui passe d'ores et déjà la parole pour répondre à ces questions. Et j'espère que les autres collègues auront l'occasion de pouvoir prendre la parole plus tard, dans d'autres occasions. Merci beaucoup pour ces grands défis. Je sais que j'ai un agenda effectivement très très rempli. Alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec le fait que nous avons eu beaucoup de succès sur notre stratégie de vaccination. Nous avons agi de la meilleure façon, il me semble. Et quand on fera une rétrospective, nous allons voir que travailler ensemble, solidaire, fut la meilleure façon, la plus adéquate. Et nous sommes arrivés maintenant à un point que nous avons trois vaccins qui sont sûrs, d'autres apparaîtront, les citoyens auront accès à ces vaccins et nous allons analyser qu'est-ce qui s'est mal passé, évidemment, pour pouvoir toujours améliorer et apprendre avec ce qui s'est passé et surtout faire face aux futures crises. Beaucoup de questions ont été posées, je souhaiterais répondre. Alors, je suis tout d'abord tout à fait d'accord avec les principes de la santé européenne. Je l'ai dit dès le début, nous avons besoin d'investir au niveau de la santé pour l'Union européenne. Nous allons partager ces données au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce processus. Elanis Stavros, qui a posé des questions très, très importantes. Les tranches d'âge pour la vaccination. Eh bien, l'Union européenne du médicament donne quelques clarifications par rapport effectivement à l'approbation de ces vaccins. Et là, on a également la question de l'âge des patients. Donc, la question qui se pose pour AstraZeneca, par exemple, donc les âges critiques à partir de 65 ans. Mais on n'a jamais dit effectivement que ceci ne serait pas efficace. Donc chaque État membre devra voir s'ils suivront cette recommandation de l'Agence européenne du médicament. Donc la responsabilité de la des pharmaceutiques, très importante cette question. Parce que les États membres avec la Commission ont utilisé le processus de conditions, donc de voir par exemple l'émergence également, ouais, et l'urgence de ces questions, donc au niveau des entreprises. Très différent de ce qu'a fait le Royaume-Uni, qui a utilisé le protocole d'urgence. Alors nous, en utilisant cette condition, donc pour la commercialisation, la responsabilité est toujours auprès des entreprises. Donc les autorités, notamment le Centre européen de contrôle, accompagnent tous ces effets secondaires qui sont très importants. Mais il y a ici une grande différence. L'autorisation donnée par les États membres, les 27 États membres, qui ont décidé avec la Commission européenne de suivre cette voie. Ceci veut dire que ceci pourra prendre 2, 3 ou 4 semaines de plus pour ce protocole d'urgence, mais nous sommes en train de sauvegarder la responsabilité des pharmaceutiques pour garantir l'efficacité et également la sûreté des vaccins. Ceci est très important pour protéger les droits des citoyens. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. 13 secondes de plus, Monsieur le Président. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup me réunir avec vous et toujours disponible. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement difficile pour moi aujourd'hui. Merci. C'est toujours voir tous ces visages, même sur un format numérique. Merci. Micro, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est là, ce fut une réunion très utile et je souhaite plein de succès pour ton travail. Je souhaite remercier également les 31 collègues qui ont été présents avec nous et le vice-président Roberta Metsola. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Je pense que ce dialogue est très important avec la Commission et je pense que nous devons donc suivre cette dimension parlementaire de la présidence portugaise du Conseil européen. Donc, nous retrouverons maintenant le 7 avril avec la présence du vice-président Valdis Dombrovski pour justement aborder des matières, des domaines de l'économie. Une économie qui soit toujours au service des citoyens dans un moment particulièrement important pour la récupération. Voilà, je souhaite beaucoup de santé à tous et chacun et j'espère que la situation dans vos pays puisse évoluer de façon positive. Heureusement, ici au Portugal, nous avons eu 2 semaines particulièrement difficiles, mais On voit que les indicateurs nous montrent maintenant une décroissance, en tout cas, de la pandémie et donc une baisse. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que nous serons en mesure de nous rencontrer présentiel, comme nous le souhaitons tous, mais d'ici là, eh bien, nous allons toujours utiliser les outils technologiques qui nous sont disponibles. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, une très bonne journée et bon travail à tous. Merci.
Thank you.